Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé hier mercredi à Kinshasa. Dans sa déclaration à la presse, il a affirmé qu'il est à Kinshasa pour évoquer les problèmes de développement et ceux relatifs au mécanisme de résolution des crises sécuritaires en RDC. Cette visite de Charles Michel intervient quelques jours après le retour du président Tshisekedi de Paris, où il a échangé avec le président français Emmanuel Macron. Rappelons que la semaine dernière, Félix Tshisekedi avait reçu les présidents zambiens et kenyans, eux aussi venus en visite de travail à Kinshasa. Quelle est-il faire de ces balais diplomatiques et quel gain la RDC pourrait en tirer? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir. Et nous recevons dans cette émission professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Bonsoir professeur Bob Kabamba.
Bonsoir à vous.
Professeur Jeff Omoudimbi, il est professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Bonsoir professeur Jeff Omoudimbi.
Bonsoir M. Guy Maté et bonsoir aussi à M. Bob Kabamba.
Et professeur Casimir Ngoumbi, il est professeur à la faculté des sciences sociales de l'Université de Kisangani. Il est politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Bonsoir professeur Casimir Ngoumbi.
Bonsoir monsieur Guy Maté.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans les sommaires de cette émission, le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé hier mercredi à Kinshasa. C'est jeudi, il a procédé à la remise des deux bateaux pour baliser le fleuve Congo. Il a, dans la déclaration faite à la presse, affirmé qu'il est à Kinshasa pour évoquer les problèmes de développement et ceux relatifs aux mécanismes de résolution des crises sécuritaires en RDC. Toujours ce jeudi, Charles Michel a discuté en tête-à-tête avec Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine et président de la RDC au Palais de la Nation. On écoute le président Tshisekedi qui s'exprimait après cette tête-à-tête dans cet extrait sélectionné par Donna Madimba.
Comme vous le savez, la gratuité de l'enseignement est un des piliers de mon programme de ce quinquennat et j'y tiens particulièrement. Vous savez que c'est dans des conditions difficiles, quasi impossibles, que nous l'avons lancé en 2019. Malheureusement, nous avons connu un ralentissement de la mobilisation de nos recettes avec cette pandémie. Mais ça ne nous a pas découragés pour autant et surtout nous avons été encouragés par les appuis budgétaires qui nous ont été octroyés par les institutions financières, FMI, Banque mondiale. Et cela nous a davantage encouragés. L'avènement de ce gouvernement va nous permettre de mieux nous focaliser sur le secteur en question, la gratuité de l'enseignement, en mobilisant davantage de moyens. Et avec ça, nous allons déjà arriver à remédier à certains besoins et nous comptons toujours sur ces appuis budgétaires qui vont nous permettre donc de boucler le budget. La qualité de l'enseignement lui-même a perdu en valeur. Nous allons donc accentuer les efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement. Nous allons aussi faire des efforts pour multiplier les infrastructures scolaires. Malheureusement, cette mesure qui était tant souhaitée par le peuple congolais a eu aussi des conséquences et d'avoir des nombres incalculables d'enfants dans les classes. Donc nous allons aussi aller dans ce sens avec l'Union européenne d'obtenir des accompagnements, du soutien, des conseils, de l'encadrement pour y faire.
Professeur Bob Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Depuis que le président Tshisekedi a pris la présidence de l'Union africaine, on assiste à des visites des personnalités tant politiques que du monde économique. Quelle lecture vous faites de ces balais diplomatiques, professeur Bob Kabamba?
Merci en tout cas pour l'invitation et merci pour le débat et la question. Et puis je profite aussi pour saluer donc mes collègues avec qui nous allons débattre donc ce soir. C'est-à-dire ici, ce qu'il faut bien comprendre, nous sommes donc dans le domaine des relations internationales. Relations internationales qui sont essentiellement ce qu'on appelle des relations de pouvoir et de recherche de puissance et surtout de pouvoir augmenter son intérêt en profitant de ses relations au niveau international. Alors, la présidence de l'Union africaine est une présidence prestigieuse pour la bonne et simple raison que c'est une présidence qui permet de pouvoir parler au nom de tous les pays africains et d'être comme le porte-parole, en fait, des pays africains. L'Afrique est au cœur des enjeux actuels. On a les enjeux qui concernent le climat, on a les enjeux qui concernent les minerais, on a les enjeux qui concernent la sécurité, on a beaucoup d'enjeux qui tournent autour du continent africain, et donc le continent africain est un acteur clé dans le champ donc de ces relations internationales par rapport à ces différents enjeux. Alors il est tout à fait normal, lorsque l'on assume la présidence donc de l'Organisation de l'Unité africaine, que l'on a effectivement les yeux de la communauté internationale braqués sur vous. Alors si vous pouvez regarder un petit peu en prospective, depuis que le président Tshisekedi a pris la présidence de l'Union africaine, il y a eu plusieurs rendez-vous internationaux, dont notamment la question liée au climat, la question liée aux relations entre la France et l'Afrique, la relation liée au Congrès mondial sur la sécurité, il y a la question du G20, toute une série de rendez-vous internationaux sur lesquels la présence de l'Union africaine est indispensable. Et de ce fait, quand on dit la présidence de l'Union africaine, probablement, on regarde, c'est le président donc, de l'Union africaine qui doit y participer. Et alors, lorsque l'on a effectivement une telle présidence, qu'est-ce qui se passe? Généralement aussi, le président, quelconque qu'il soit Félix Tshisekedi ou un autre, profite de ce moment-là pour justement essayer de capitaliser tout ce qu'il peut grainer de ces différentes rencontres internationales par rapport à son pays. Par exemple, par rapport à la France, il va de soi que le président Tshisekedi, de par sa présidence de l'Union africaine, va essayer, dans la mesure du possible, de pouvoir ramener vers le Congo toute une série quand même de projets, canaliser toute une série d'aides, par exemple, qui doivent se faire pour pouvoir être canalisées vers la RDC. Et ces différents rendez-vous, ainsi que ces différentes rencontres, participent à ce qu'on appelle la reconnaissance d'un régime politique, ça veut dire on renforce la reconnaissance du régime de Félix Tshisekedi sur le champ international. Et le moment est pour le président Tshisekedi un peu particulier, du fait que il a réussi, entre guillemets, à arriver à renverser donc la majorité au niveau du Parlement et avoir enfin, comme lui-même il le dit, un gouvernement avec lequel il va essayer d'impulser sa politique sans être encombré par son ancien partenaire.
Voilà, s'il faut prendre l'étape de Paris, au-delà de la question sur le renforcement de leur coopération riche des dossiers bilatéraux entre la France et la RDC, et le président de la RDC a, pendant son séjour en France mardi dernier, déclaré que la RDC a besoin de l'aide du président français Emmanuel Macron pour mettre, n'est-ce pas, fin à la menace des EDF dans l'est de la RDC. Et pour faire cette assistance de la France, pourrait revêtir quelle forme? Vous avez évoqué le fait que le président, n'est-ce pas, profiterait aussi de toutes ces visites pour essayer de les capitaliser par rapport à son pays, la RDC. Cette assistance que la RDC demande de la part de la France pourrait revêtir quelle forme, professeur Bob Kabamba?
Merci beaucoup pour la question. Et là, vous venez de souligner effectivement un des aspects, puisque le président Tshisekedi était en France pour préparer ce qu'on appelle le sommet France-Afrique, c'est-à-dire grosso modo, il y aura un sommet qui va regrouper les pays africains avec la France pour aborder toute une série de questions. Et par rapport à son séjour, il en a profité effectivement pour travailler pour le dossier congolais, notamment cet appui de la France pour éradiquer la sécurité à l'Est. Alors il faut aussi bien se rendre compte que l'intervention par rapport à cet aspect des choses n'est pas aussi évidente qu'à l'époque de l'opération Artemis, par exemple, lorsque les Français sont intervenus dans la région de l'Ituri. Le contexte politique a changé, le contexte international a changé. Il va de soi que peut-être sous cette question bien précise, la France pourrait être amené à pouvoir faire intervenir les différents mécanismes qui existent au niveau de l'Union européenne pour pouvoir permettre à ce que d'autres pays que la France puissent intervenir ici en RDC si cela était possible. Puisqu'il ne faut pas oublier que la France est déjà engagée sur plusieurs fronts, notamment en Mali, ainsi qu'au niveau de l'Afghanistan, en Irak, etc. Donc la France n'a pas non plus une grande capacité de déploiement de ses troupes, et donc le fait qu'elle est déjà engagée sur d'autres fronts, et j'imagine que la France va essayer d'influer pour qu'il puisse y avoir d'autres pays qui fassent intervenir peut-être militairement sur le terrain congolais. Mais l'intervention des autres pays ne peut pas se faire généralement par l'envoi des troupes, mais peut-être ça va se faire par des appuis qui pourraient amener à un secteur multilatéral, qui pourrait amener d'autres pays, par exemple des pays africains, à pouvoir être financés pour pouvoir participer à des opérations militaires sur le terrain de la RDC. Donc la participation de la France en tant que telle avec des troupes françaises me semble hypothétique pour les raisons que j'ai évoquées.
Alors, s'il faut revenir à la RDC à Kinshasa, le président du Conseil européen, Charles Michel, qui séjourne ici à Kinshasa depuis ce mercredi, a, dans sa déclaration faite à la presse, affirmé qu'il est à Kinshasa pour évoquer les problèmes de développement et ceux relatifs au mécanisme de résolution des crises sécuritaires en RDC. Et à cet effet, deux bâtons ont été remis à la RDC pour lui permettre, n'est-ce pas, d'assurer les travaux de balisage du fleuve Congo. Professeur Bob Kabamba, on dit que c'est la main qui donne qui domine. Et à votre avis, quelle pourrait être la contrepartie de toutes ces aides dont bénéficie ou devra bénéficier la RDC? Quelle pourrait être la contrepartie de ces aides?
Alors, la particularité qu'il y a par rapport à l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est un conglomérat, donc c'est un ensemble des pays européens qui décident d'avoir une politique commune. N'empêche que les pays qui composent l'Union européenne restent quand même aussi avec une part d'activité au niveau des relations internationales. Pour l'Union européenne, il y a plusieurs aspects fondamentaux qui permettent justement de pouvoir aider ou participer à toute une série d'actions. La première, notamment, c'est de pouvoir consolider l'Union européenne comme un acteur clé au niveau international. Il faut bien se rendre compte que l'Union européenne est ce qu'on appelle le premier contributeur de l'aide au développement au niveau mondial. Et de ce fait, en étant premier contributeur au niveau de l'aide au développement au niveau mondial, ça lui donne une capacité d'existence qu'on appelle soft power au niveau des relations internationales, c'est-à-dire la capacité de pouvoir influer dans les pays où ils interviennent. C'est-à-dire aussi que par rapport à ce genre de coopération, lorsque l'Union européenne va pouvoir défendre toute une série de politiques au niveau international, va avoir besoin de la RDC pour que la RDC parle la même voix que l'Union européenne par rapport à des questions comme l'immigration, par rapport à des questions comme le réchauffement climatique, etc., etc. Et ces différentes choses participent à consolider donc la place de l'Union européenne comme un véritable acteur sur la scène internationale. Et ça permet aussi de pouvoir avoir une légitimité pour l'Union européenne d'intervenir aussi sur d'autres champs que la RDC, d'autres terrains que la RDC. On peut penser par exemple à tous les pays limitrophes de la RDC. On peut penser aussi à des pays comme le Rwanda ou bien comme l'Ouganda, voire le Sud-Soudan.
Merci professeur Bob Kabamba. Professeur Jeff Mudimbi, vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Comment vous analysez, vous également, ces balais diplomatiques auxquels on assiste depuis quelques mois ici en RDC?
Bien, merci beaucoup M. Guy Maté pour la question que vous venez d'imposer. Je pense que ce balai diplomatique peut s'expliquer à partir de deux éléments. Bien entendu, il peut y avoir encore d'autres éléments qui peuvent s'ajouter à ceux que je vais énumérer ici. Je pense que le premier élément est le plus fondamental, notamment la position qu'occupe le président Félix Tshisekedi au niveau de l'Union africaine. Le président de la République Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, apparaît comme étant son porte-parole. Et à ce titre-là, je pense que les différents balais diplomatiques auxquels on est en train d'assister ont pour point d'appui effectivement le président en tant que président de l'Union africaine, parce que il peut facilement jouer le rôle d'interlocuteur entre l'Afrique et d'autres organisations régionales comme du reste l'Union africaine. Et comme l'a si bien dit aussi le professeur Bob Kabamba, l'Afrique a des problèmes particuliers ou des problèmes d'ordre général, mais aussi la RDC a des problèmes tout à fait particuliers. C'est ainsi que, en profitant de poser les problèmes de l'Afrique d'une manière générale, on parvient aussi à poser les problèmes spécifiques de la RDC, notamment le problème lié à la guerre à l'Est et celui de la gratuité de l'enseignement comme le président lui-même venait de l'insinuer. Alors, dans tout cela, il faudrait reconnaître que la RDC, pour mieux l'appréhender, on doit la considérer comme un système. Alors, la caractéristique de tout système, c'est notamment son ouverture à son environnement, aussi bien interne qu'externe. Il est sans oublier que, depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la présidence de la RDC, il a déployé de grands efforts sur le plan diplomatique, au point que la RDC n'est plus encore ce pays isolé, mais c'est un pays qui est vraiment en interaction avec d'autres États. Alors,
si sur le plan diplomatique, on peut jeter des fleurs au président Tshisekedi, il faudrait reconnaître que sur le plan purement interne, il y a beaucoup de problèmes qu'il faudrait réaliser, au point que, en interne, le Congo est déséquilibré. Alors, par le principe homéostasique, le Congo peut lui-même générer ses propres mécanismes de l'établissement de son équilibre. Mais il peut arriver que, par ses propres moyens, la RDC n'arrive pas à résoudre les différents problèmes internes. Alors, à ce moment-là, il est tout à fait bien séant que le président Tshisekedi, en tant que porte-parole aussi de ce pays, puisse tourner son regard vers l'extérieur, de sorte que, grâce à l'appui extérieur, qu'on puisse arriver à résoudre les problèmes internes, notamment la gratuité de l'enseignement et le problème de la guerre à l'est du pays. Parlant de la gratuité de l'enseignement, c'est bien beau, mais cette gratuité-là suppose effectivement que l'on puisse déployer des moyens suffisants, des moyens non seulement pour payer le personnel, parce que même si on est dans la gratuité de l'enseignement, le personnel doit être payé, et par ailleurs, on a récupéré bon nombre d'étudiants et bon nombre d'enfants qui n'étaient pas scolarisés, alors ce qui fait qu'il faudrait qu'il y ait aussi un problème d'infrastructure. Et la construction des infrastructures nécessite la mobilisation des moyens. Ainsi, si en interne on n'a pas suffisamment de moyens, on peut aussi recourir à l'extérieur pour mobiliser ces moyens-là.
Oui, justement, par rapport aux efforts qui doivent être fournis au niveau interne, lors du séjour du président kényan Uhuru Kenyatta, il a été annoncé l'arrivée prochaine des militaires kenyans pour assister la RDC afin d'anéantir les groupes armés dans l'est de la RDC. Mais beaucoup d'experts soutiennent que l'idéal serait plutôt le renforcement des capacités de nos forces armées et que l'appui des partenaires pourrait venir en deuxième position.
Bien, merci beaucoup M. Guy Maté, mais vous savez que en RDC, tous les problèmes semblent être prioritaires. Mais s'il faudrait d'abord renforcer les capacités des éléments internes, ça a un coût et ça peut prendre du temps. Je pense qu'il faut y aller en même temps, pendant que l'on recourt au soutien de l'environnement international pour essayer de résoudre les problèmes auxquels on est confronté en interne. Et dans l'entretemps, on peut aussi contribuer au renforcement des capacités de nos éléments pour que, bon, on ne le souhaite pas, mais un système politique doit être aussi à mesure de défendre son intégrité et face aux attaques des ennemis, face aux velléités des pays étrangers qui veulent avoir une mainmise sur la RDC ou qui veulent exploiter les richesses de manière illicite.
Il a dit que les États n'ont pas d'amis, mais plutôt des intérêts. Professeur Jeff Mudimbi, que viseraient tous ces appuis qui sont annoncés par nos partenaires?
Ok, merci beaucoup. Il faudrait savoir que ces intérêts-là ne sont pas déclarés. Ce sont des intérêts que l'on peut appréhender au travers des agendas cachés de tel ou tel autre État. Mais ce qui est vrai est que, c'est vrai, bon, les Occidentaux, ils viennent à notre secours. Est-ce pour autant dire que ces Occidentaux nous aiment nécessairement? S'ils viennent, il faudrait reconnaître qu'ils ont leur intérêt à sauvegarder. Alors, la position géostratégique occupée par la RDC peut aussi expliquer cet intérêt des pays occidentaux envers la RDC. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a une emprise sur la RDC, c'est fort possible que l'on arrive à exercer une influence dans bon nombre de pays. Vous savez, nous ne sommes plus encore à une certaine bipolarisation de la scène internationale où il y avait d'un côté les communistes, de l'autre les socialistes. Aujourd'hui, on assiste à une multipolarisation. Donc, ce qui fait que chaque organisation régionale, peut s'agir du continent africain, du continent européen, asiatique, américain, donc toutes ces organisations régionales-là cherchent aussi à avoir une emprise, à avoir une influence dans telle ou telle autre partie du pays. Et je pense que c'est dans cette quête que les Occidentaux particulièrement ont un intérêt particulier pour la RDC. Mais sinon, toutes ces interventions ou encore ces intentions de vouloir aider la RDC ne relèvent pas d'un amour que les Occidentaux ont pour les Congolais. Mais ils ont aussi leurs propres intérêts à préserver que l'on peut retrouver dans leur agenda caché.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi, professeur à la faculté des sciences sociales de l'université de Kisangani. Vous êtes politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Votre analyse par rapport à ces balais diplomatiques?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de commencer, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le professeur Kabamba et Moudimbi, qui sont co-débatteurs pour cette émission. Je voudrais commencer d'abord par une affirmation du commun des mortels. L'Afrique utile, messieurs les journalistes, reste sous haute surveillance occidentale. Et donc, on ne peut nullement gérer un État en Afrique sans nécessairement penser occidental, c'est-à-dire connaître ce que veulent effectivement les occidentaux de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Mais en ce qui concerne notre débat du jour, je voudrais tout simplement dire que le président Tshisekedi passe à l'application du gros de sa diplomatie, tel qu'il avait déclaré. Pour ceux qui ne le savent pas, il parle de la politique de bon voisinage, la volonté africaine, l'ouverture au monde sans exclusive, la coopération internationale et régionale. Lorsque vous lisez le plan d'action du président Tshisekedi, tout ce serait bien. Même si par là, il y a quelques contrastes lorsqu'il parle du neutralisme politique, et là, maintenant, il est en grande recherche des alliés pour traquer le rebelle, et entrer en conflit, bien entendu, avec ce qui sont derrière ce rebelle-là. Et donc, le président Tshisekedi profite des acquis depuis qu'il est entré au pouvoir, depuis son accession au pouvoir. Il veut consolider les liens avec l'Europe, la Belgique, la France et l'Allemagne. Il multiplie les visites sur le vieux continent pour se rapprocher de ses partenaires européens. Le président de la République démocratique du Congo veut donc sortir de l'isolement dont le pays a souffert ces dernières années. Vous savez, messieurs les journalistes, les relations entre la RDC et l'Union européenne étaient très tendues à la fin du régime de son prédécesseur Joseph Kabila. De deux, tu sais qu'il veut obtenir de l'aide matérielle et une légitimité internationale. Je vais réagir par rapport à ça. Et là, j'ai beaucoup aimé l'intro pour ce pauvre Kabamba. Et donc, toutes les réformes envisagées déjà exigent d'importants financements. Et c'était d'État américain. Mike Pompeo s'était d'ailleurs prononcé ouvertement en faveur du projet de bonne gouvernance et des luttes contre la corruption. Et Tshisekedi déjà commence à se présenter en bon élève par rapport à tout cela. Et à l'époque de Félix Tshisekedi, il a promis de déboulonner les systèmes dictatoriaux. Vous vous rendez compte, c'était pas. Il est une précurseur qui annonçait déjà sa conflictualité avec le premier pouvoir qu'il a décidé. Bref, je voudrais dire que Tshisekedi est en quête d'une légitimité internationale, mais attention, le développement doit être focalisé sur deux piliers, légitimité. En même temps qu'il achète la légitimité internationale, il a besoin d'une légitimité interne, comme le disait le professeur Moudimbi. Donc, tout ce fonctionnaire d'État qui attend véritablement le passage à l'action du gouvernement Samalou Kondé ont besoin de voir les signes pratiquement visible et palpable pour que cette légitimité interne soit complétée par les légitimités externes dont il a besoin. Mais je note aussi qu'il y a une sorte d'amalgame, entre guillemets, lorsque, en même temps, on veut parler du neutralisme positif et ouvertement, car on va en guerre contre l'ennemi. C'est pas, tout ne peut pas être déclaré quand on est en guerre contre l'ennemi ou quand on veut faire quelque chose. Il faut donc repréciser les choses. Et là, je note beaucoup de choses en même temps, mais est-ce que ces ambitions, on ne sait pas les prioriser par rapport à ce qui doit être fait. Le professeur Moudimbi a parlé d'un pays à multiples priorités, mais pour l'instant, moi, j'imagine qu'il faut commencer par la sécurité. Parce que pas de sécurité, pas de travail, pas de développement, pas d'harmonie sociale non plus. Donc, même par-ci, par-là, il peut encore glaner pour essayer d'aller avec les autres projets à la fois, mais j'imagine que la sécurité, pour moi, reste la priorité de l'Éthiopie, étant donné que...
Allô, professeur? Allô? On va essayer de les rappeler. Et professeur Bob Kabamba, vous avez évoqué le fait que l'Afrique est au cœur, n'est-ce pas, des enjeux actuels. Et on sait que la RDC, ça c'est des notoriétés publiques, hein, la RDC regorge d'énormes potentialités, d'énormes ressources naturelles dont la gestion, selon les experts, la gestion semble difficile du fait de l'implication de plusieurs groupes d'intérêt, de plusieurs pays. Et la récente sortie médiatique d'Albert Yuma, PCA de la Gécamines, a permis de relancer les débats sur la gestion de nos ressources naturelles. Et comment le président, à votre avis, le président de la RDC pourrait profiter de sa position des présidents de l'Union africaine pour arriver, d'une part, à préserver ce patrimoine national qui semble échapper depuis un certain moment à la RDC, et de l'autre côté, ne pas préjudicier les intérêts des privés qui ont investi chez nous?
C'est une question vraiment fondamentale, vraiment une question fondamentale. Ce qu'il faut bien comprendre lorsqu'on parle de la RDC, surtout avec ses ressources naturelles, il faut chaque fois se remettre dans le contexte historique. Vous devez savoir que depuis que la RDC existe, donc depuis les années 1880, la RDC a toujours été considérée comme ce qu'on pourrait appeler un réservoir des ressources naturelles où tout le monde va vouloir venir piller et aller alimenter le marché international. Lorsque vous lisez la charte sur l'État indépendant du Congo, vous allez voir que, effectivement, ça constitue un des fondements en disant, oui, la communauté internationale accepte que l'État indépendant existe, mais à condition que tout le monde sache bien y faire du commerce et bien exploiter pour pouvoir alimenter le marché international. Mais alors, ce système ne s'est pas arrêté, a été consolidé, institutionnalisé après par la Belgique, et donc la RDC, dans son ADN, le fait de souffrir de ces ressources qui sont pillées ou exploitées pour le commerce international. Et alors, ce système s'est perpétué, mais a évolué au fur des années, c'est que pour l'instant, on a une évolution où ces ressources ne sont plus entre les mains des Congolais, mais il est entre les mains maintenant des groupes multinationaux qui détiennent l'essentiel des actifs miniers. Lorsque l'on parle de groupes multinationaux, ça veut dire à ce moment-là que la réglementation liée même à l'exploitation devient compliquée. Et de ce fait, il y a un héritage qu'a hérité le président Félix Tshisekedi. Et or, ça, ce n'est pas aussi évident et facile de pouvoir, en quelques années, arriver à inverser une tendance qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et qui est ancrée dans l'ADN du Congo. Il faudrait pratiquement une réforme fondamentale de tous les processus et de toute la capacité pour arriver à inverser la tendance qui serait de pouvoir récupérer. La question, par exemple, que l'on peut se poser, que vous comprenez très très bien la différence par rapport à l'évolution. Lorsque vous regardez, lorsque la Gécamines, effectivement, qui est une entreprise publique, avait le monopole sur l'exploitation des minerais, la Gécamines, effectivement, contribuait aux recettes de l'État congolais et exportait essentiellement vers le marché international. Est-ce que le système a changé actuellement? Non, le système n'a pas changé, puisque la Gécamines a donné ses actifs à des acteurs privés, mais ces acteurs privés continuent le même système, c'est-à-dire prendre les ressources et les amener au niveau international. Et donc, les capacités pour le président Tshisekedi de pouvoir inverser cette tendance sont, de mon point de vue, assez minimes, vu les relations internationales, surtout aussi vu les accords que la RDC a signés avec, non seulement au sein de l'OMC, à la Cour d'arbitrage de Paris, où les marges de manœuvre sont assez réduites. Ça veut dire que la RDC ne peut pas faire tout ce qu'elle veut si elle veut récupérer le monopole, si elle veut récupérer l'exclusivité de ces minerais. Cela coûterait très très cher à la RDC si elle voudrait inverser par une révolution quelconque, par exemple, renationalisation de tous les actifs miniers ou notre genre de politique qui pourrait être menée. Et donc, je pense véritablement à cette question que la marge de manœuvre est assez limitée et que c'est un combat de longue haleine et qui nécessite qu'il puisse y avoir modification au niveau de plusieurs textes sur lesquels la RDC a adhéré et aussi une modification même du modèle économique dans lequel se trouve la RDC.
Merci. Professeur Casimir, est-ce que vous êtes là?
Assez Baptiste, oui, je viens d'être.
Voilà. Oui, professeur, aujourd'hui, lors de son point de presse aux côtés de Charles Michel, le président Félix Tshisekedi a évoqué cette question de la préservation du deuxième poumon, notre forêt équatoriale. Qu'est-ce que la RDC peut faire aujourd'hui pour faire entendre sa voix afin que la communauté internationale puisse aider la RDC à pouvoir préserver ce patrimoine qui est devenu un patrimoine international. Est-ce que la position actuelle du président Félix, en tant que président de l'Union africaine, peut l'aider à pouvoir faire comprendre cette position de la RDC?
Affirmatif, monsieur le journaliste. Moi, je crois qu'il faut aussi, comme on parle de la gouvernance sécuritaire, il faut améliorer la gouvernance forestière chez nous. En commençant par le ministère de l'Environnement et puis tous les acteurs. Et beaucoup de brebis galaises opèrent dans ce secteur, monsieur le journaliste. Je crois qu'il faut remettre de l'ordre, particulièrement les exploitants industriels. Il y en a qui opèrent à leur guise et le ministère de l'Environnement lui-même, sur le plan de la gestion interne. En tout cas, il y a beaucoup de plaintes. Sur le plan international, je pense à mon avis qu'il faut recadrer les choses et reconnaître des attributions, n'est-ce pas, reconnues aux différents services de l'État, notamment l'ICCN et les autres services de l'État, et qu'ils soient soutenus. Il y a donc là un besoin pressant. Là, je remercie l'Allemagne qui pratiquement opère à travers plusieurs organisations internationales dans le secteur de la forêt. Et si aussi le président Tshisekedi peut mobiliser aussi d'autres acteurs par rapport à la gestion de notre forêt, je crois que quelque chose serait beaucoup plus avantageux. Mais aussi, il faut que nos experts, il paraît que nous avons deux experts qui peuvent calculer ce qu'on parle de calcul carbone pour savoir exactement ce dont la RDC a besoin pour qu'on puisse remettre la RDC dans ce droit.
Merci, professeur Jeff Mudimbi. Les auditeurs sont en train d'appeler, ils veulent aussi donner leur point de vue par rapport à ce sujet. Et donc, vous allez réagir à cette réflexion qui vient d'un auditeur qui nous appelle depuis Isiro.
Province du Haut-Élé. En faisant la lecture sur les différentes visites des chefs d'État africains, surtout celles du président du Conseil européen, Charles Michel, qui n'est pas n'importe qui. Cela prouve que la diplomatie congolaise commence à reprendre sa place. Il faut dire que la visite aux différentes personnalités ne suffit pas, car chacun doit manifester sa volonté réelle pour aider la RDC. Pour que la RDC trouve lieu de cette visite, en se mettant vite au travail et définir une bonne politique basée sur les résultats pour résoudre les problèmes de la sécurité à l'Est.
Professeur Jeff Mudimbi, cet auditeur vient de poser l'autre aspect de la question, c'est quel gain la RDC pourrait tirer de toutes ces visites, de ces balais diplomatiques?
Bien, merci beaucoup et je voudrais bien saluer l'intervention de notre compatriote. Comme je l'ai dit, il est vrai que sur le plan diplomatique, la RDC est en train de produire des fruits palpables et on en voit. Mais il faudrait reconnaître que la réussite sur le plan diplomatique ne suffit pas pour que le gouvernant puisse bénéficier du véritable soutien. Parce que le président Tshisekedi a non seulement besoin, à l'instant, du soutien de l'environnement international, mais aussi du soutien de l'environnement national. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait faire en interne. Par exemple, même si le président de la République peut aller à gauche, à droite pour chercher des investisseurs, les investisseurs ne pourront en aucun cas venir en RDC tant que le climat même des affaires n'est pas propice, tant qu'il y a des guerres à gauche, à droite, tant qu'on n'a pas encore une économie stable. Donc il y a aussi des efforts qu'il faudrait faire en interne. Qui plus est, tous ces investisseurs-là, s'ils veulent venir ici, c'est tout simplement parce qu'ils voudraient aussi gagner, avoir un profit. Comment est-ce qu'ils pourront accepter de venir investir si la majorité de la population croupit dans la misère, s'il n'y a qu'une infime minorité qui vit dans l'aisance alors que la population dans son ensemble est en train de trimer? Donc, il est bien séant que le président de la République réussisse sur le plan diplomatique, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il doit faire en interne. L'amélioration des conditions de vie des individus est un atout pour amener les investisseurs à venir en RDC. Et la lutte aussi contre les exactions, toutes les guerres que nous connaissons à l'Est, c'est vrai, notre pays, bien entendu, n'a pas eu jusqu'à ce niveau-là des moyens nécessaires pour éradiquer tous ces groupes-là. C'est ainsi que la RDC est en train de solliciter l'appui de la communauté internationale. Si cette communauté venait et qu'on arrive à régler cette situation, dans l'entretemps en interne, on améliore les conditions de vie des gens, cela peut encourager les investisseurs à venir, et c'est à ce moment-là que l'idéal d'avoir et le soutien de l'environnement national et le soutien de l'environnement international sera plus ou moins atteint, et au grand bénéfice, non seulement du président lui-même qui a besoin de ce soutien-là, mais aussi au bénéfice de toute la population congolaise.
Merci beaucoup. Professeur Bob Kabamba, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kisangani.
Grâce à Bakajika depuis la ville de Kisangani. Moi, je pense que le problème de la sécurité en RDC est international parce que les massacres à l'est du pays sont exécutés par des rebelles venus de pays voisins. Ces visites diplomatiques de travail sont bel et bien importantes car elles peuvent apporter des solutions aux situations de l'insécurité du pays. L'union fait la force. Seule la RDC ne pourra pas résoudre ces problèmes. Vraiment, c'est une occasion pour nous d'avoir un président de la République à la tête de l'Union africaine qui peut profiter des appuis internationaux pour assurer la paix. Ces simples visites doivent apporter quelques changements au pays car le peuple congolais veut avoir des actions.
Professeur Bob Kabamba.
Merci pour la question. C'est que le conflit à l'Est, il faut les analyser sur plusieurs niveaux. Au fait, c'est qu'il y a une intercation entre, d'une part, les contextes locaux, et ces contextes locaux qui sont combinés avec des enjeux provinciaux et des enjeux régionaux, fait en sorte que ces conflits deviennent des conflits multidimensionnels, ça veut dire qui ont plusieurs niveaux. Et la résolution d'un tel conflit ne dépend pas que d'un seul acteur, dépend effectivement de tous les acteurs dans une même dynamique, dans ce qu'on appelle la théorie de l'alignement des planètes. Est-ce que le niveau régional, les pays régionaux, ont-ils intérêt à ce que le conflit s'arrête à l'est du Congo? Oui ou non, à quelles conditions? Est-ce que le niveau provincial, le niveau national, a-t-il intérêt que le conflit soit résolu? Oui ou non? Et ainsi de suite, jusqu'à différents niveaux. Et lorsqu'on arrive à avoir cet alignement des planètes, là on peut véritablement envisager des résolutions. Par ailleurs aussi, pour répondre de manière aussi plus précise à l'auditeur, c'est que lorsque l'on regarde ce qu'on appelle le seuil de violence, c'est-à-dire le niveau qu'ont atteint ces violences à l'Est, on se rend bien compte à partir de ce seuil-là qu'effectivement, ces groupements et tous ces acteurs ne sont pas que des acteurs, ne sont pas des acteurs congolais, ne sont pas des acteurs locaux, c'est essentiellement, pour la plupart, des acteurs régionaux, et ça se calcule donc sur base du seuil de violence qui prouve de manière très claire qu'il y a implication de ces pays étrangers. Et donc, ça, véritablement, en ayant une position de président de l'Union africaine, permet peut-être aussi à ce moment-là au président Tshisekedi de mettre en avant toute une série de problèmes qui sont des problèmes congolais et qui nécessitent l'intervention extérieure pour pouvoir les résoudre. Mais maintenant, est-ce que la présidence de l'Union africaine suffit en elle-même pour pouvoir arriver à résoudre tous les problèmes? Je ne pense pas. Et comme l'a dit notre collègue, en disant, ben oui, il faut qu'il y ait une part de responsabilité du côté congolais, qui va permettre justement à ce que le Congo d'abord prenne ses responsabilités. En prenant ses responsabilités, l'appui extérieur ne sera qu'un appui extérieur qui va venir accompagner et consolider la dynamique nationale qui pourrait être entreprise. Et cet élément-là est très important, c'est-à-dire que la prise de conscience au niveau d'abord du Congo lui-même, avant de pouvoir compter sur l'étranger.
Alors, l'un des bénéfices que la RDC pourrait obtenir en ayant à la tête de l'Union africaine son président comme président de cette Union africaine, n'est-ce pas le fait que le président peut user de son influence pour amener les pays d'origine de certains groupes armés comme la FDLR, comme l'EDF, à pouvoir s'impliquer de façon active dans la résolution de cette question d'insécurité dans l'Est de la RDC?
Oui et non. C'est que le président de l'Union africaine n'a pas une capacité d'injonction vis-à-vis des autres présidents de la région ou quelconque. Il n'a pas une capacité d'injonction, mais il a une capacité d'invitation. Et cette capacité d'invitation, effectivement, a toute son importance, mais cela n'a pas la capacité donc d'injonction. Par ailleurs aussi, c'est qu'il faut aussi bien se rendre compte que le fait de pouvoir être président de l'Union africaine n'a pas des moyens coercitifs. C'est-à-dire qu'il ne peut pas convoquer comme on convoque un gouverneur de province ou bien comme on convoque un ministre. Et donc il y a quand même cette dimension qui est importante à pouvoir souligner, c'est-à-dire grosso modo qu'il y a ces contraintes-là qui existent, mais qui permet néanmoins à ce que le président Tshisekedi mette à l'ordre du jour, effectivement, les préoccupations des Congolais, notamment ici la question donc, de l'Est du Congo dans toute une série de cénacles internationaux, c'est-à-dire lorsqu'il va à Paris
il parle de l'Est. Lorsqu'il va à la réunion qui, bientôt, qui aura lieu au niveau de Glasgow pour le climat, il va en parler. Lorsqu'il va aller à Rome au sommet de G20, il va en parler. Et donc cette mise à l'agenda des préoccupations congolaises, là effectivement il a cette capacité, mais cette capacité n'est pas une capacité coercitive.
Merci professeur Casimir Ngoumbi. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle de Lubumbashi.
C'est Henri Kaboué, je vous appelle depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Les visites sont bonnes sur le plan de la diplomatie, mais n'apporteront absolument rien pour rétablir la paix à l'est du pays. La solution de la paix se trouve en RDC. Que le président de la République ne perde pas son temps en cherchant des solutions de gauche à droite, car il y a eu plusieurs révélations sur les raisons qui motivent la persistance de la guerre, mais aucune solution n'a été trouvée jusque-là. Mais on part chercher des soldats dans d'autres pays.
Professeur Casimir Ngoumbi.
Oui, moi je crois qu'il faut nuancer les choses. Et il ne faut pas être catégorique et considérer que toutes les démarches entreprises par le président Tshisekedi n'aboutiront absolument à rien. Moi je pense pas, je ne suis pas de cet avis totalement. Je sais que Tshisekedi use d'une certaine intelligence politique pour profiter de cet événement, de cette occasion, son accession au pouvoir, afin de pouvoir répondre à un certain nombre de préoccupations, de revendications de la population congolaise. Moi, je crois qu'il faut l'encourager. Et concernant la guerre à l'Est, ou les troubles à l'Est, il a raison, mais moi, je pense qu'on n'a pas seulement besoin de la paix. On a besoin à la fois de la paix et du pain. Et donc, pour une population qui est pratiquement coupée dans la misère, il y a des guerres qu'à l'Est. Mais dans les autres provinces de la RDC, les enfants vont à l'école, effectivement, ils ont besoin de la formation. Il faut donc nuancer son affirmation et considérer que ce que Tshisekedi a fait n'est pas totalement mauvais, ou du moins n'est pas mauvais, il est dans le droit chemin.
Oui, professeur, vous avez, dans votre première intervention, vous avez évoqué le fait que le chef de l'État congolais veut consolider les liens avec l'Union européenne, qu'il est en train de sortir, n'est-ce pas, la RDC de l'isolement dont le pays a souffert pendant longtemps. Mais à part cela, quels autres gains la RDC pourrait tirer de ce balai diplomatique?
D'abord, la consommation internationale. Vous savez, même quand on ouvre la RFI, on voit que le président de la RDC a rencontré Macron, qui n'est pas n'importe quel président de n'importe quel pays à travers le monde, c'est déjà quelque chose. Sur le plan de l'opinion internationale, là, il y a un gain psychologique d'abord, mais aussi sur le plan géopolitique, tous les ennemis de la RDC qui apprennent que le président Tshisekedi sort de sa réserve et passe par-ci par-là, et pourrait même rencontrer certains de leurs alliés, et ça a un impact sérieux. C'est pourquoi la diplomatie, couplée à la guerre, n'est-ce pas, donne globalement la solution à un État comme celui de la RDC, un État déliquescence qui cherche comment sortir du bourbier.
Professeur Geoff Moudimbi, nous sommes à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Hein. C'est quoi votre conclusion? Comment vous entrevoyez la suite? Est-ce qu'on peut espérer que les lignes pourraient bouger suite à toutes ces visites que la RDC connaît actuellement?
Je souhaite que ce balai diplomatique puisse réellement conduire à des changements et que réellement les lignes arrivent à bouger. Mais comme vous le savez, les Occidentaux ne peuvent réellement agir que si en interne, le pays arrive aussi à baliser le terrain.
Merci, professeur Bokwamba. Votre conclusion?
La conclusion, c'est que effectivement, quand on parvient à obtenir des gains, il faut les capitaliser. Et la capitalisation de ces gains ne dépend pas de l'international, dépend des Congolais. Et donc, le fait que de pouvoir consolider aussi au niveau congolais est important de pouvoir capitaliser au niveau international. C'est-à-dire que lorsque vous avez des gains que vous pouvez obtenir en international, que vous ne savez pas capitaliser en interne, cela sera des efforts presque inutiles. Donc il est important de pouvoir stabiliser et aussi capitaliser ces gains qui doivent être capitalisés donc, au niveau interne entre Congolais, qui est un élément hyper indispensable pour la consolidation de la paix et aussi même du bien-être des Congolais.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Votre conclusion?
Je termine par la première phrase. L'Afrique est-il reste sous haute surveillance occidentale? Il faut donc de l'intelligence politique au niveau du président Tshisekedi pour que ce ne soit pas des accords pour rien ou une diplomatie qui ne gagnera absolument rien en faveur de la population congolaise.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basunga qui était à la technique. Merci à Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabou-Jangwe. Guy Maté est à la présentation. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.